Voilà, mes amis, on se retrouve avec Elio Bokhara et on va étudier aujourd'hui le texte 76 dans le deuxième tome du Likoutei Moharam, pour ceux qui voudront le voir. Je vous avoue très sincèrement que c'est un texte très, très, très difficile. Bon, il n'y a rien d'étonnant. Rabbi Nachman était un tzaddik, un juste d'une dimension qui dépasse complètement l'entendement. Grâce à Dieu, on en a eu dans chaque génération, sauf dans la nôtre, parce que nous, maintenant, on est déjà à la fin de l'histoire et donc tout s'écroule. Mais on a eu dans pratiquement toutes les générations, même dans les situations les pires de l'exil, des maîtres d'une dimension qu'on ne peut même pas. Quel que soit le mot que l'on va dire, ça sera encore une insulte à son égard, tellement il est complètement au-dessus de tout ce qu'on peut dire. Et donc, il est tout à fait normal que ces maîtres-là ont écrit des textes, des enseignements, des fois qui, je l'avoue très sincèrement, sans humilité, personnellement, j'y comprends rien, ce texte. Mais bon, Eliyahu a voulu qu'on le lise, qu'on l'étudie, donc on va le faire. Mais très sincèrement, un texte. Je vais le lire dans quelques instants, extrêmement difficile. Et encore une fois, sincèrement, pour moi, il me dépasse complètement. Mais peut-être qu'en rentrant dans le texte avec Eliaou, peut-être qu'on va arriver à toucher quelques étincelles ici et ailleurs. On va commencer. Rabbi Nachman dit, Israël em naasim adonim le baaleem. Je traduis d'après le sens, évidemment pas le sens littéral. Tous ceux qui en exil nous ont asservis, nous ont transformés en esclaves, nous ont écrasés, finalement viendra un jour où Israël sera au-dessus de tous ceux qui ont écrasé Israël pendant l'exil. Comme ce qu'expliquent nos maîtres, partout où les Juifs ont été envoyés en exil, Naasim Sarim Adonéhem, un jour ils deviendront les maîtres de ceux qui les ont écrasés. Parce que dans tout endroit où nous arrivons en exil, Betrila, au début, quand nous arrivons, quand on dit au début, ce n'est pas quand on arrive en Ukraine et 5 minutes après on est les maîtres. Jusqu'à aujourd'hui, les Ukrainiens sont les maîtres chez eux et pas les Juifs. Mais Rabbi Nachman fait allusion à ce qui se passera, le retournement inimaginable qui se passera au moment de la délivrance finale. Betrila em krushim bagola. Au début, partout où les Juifs arrivaient en exil, ils étaient écrasés. Abalacharkar, mais au fur et à mesure, em naasim adonim le baaleem, ils deviennent eux-mêmes les maîtres de ceux qui les écrasaient. Pourquoi? Parce que là où s'installe Israël, évidemment, Rabbi Nachman, au niveau des mots, on n'explique rien, mais on va essayer de rentrer dans le secret qui se cache derrière les mots. Quand Israël s'installe à un endroit et purifie cet endroit par l'étude de la Torah, par la prière, par l'accomplissement des mitzvot, cet endroit qui était un endroit complètement déconnecté de Dieu, grâce au fait que les Juifs s'installent dans cet endroit, je parle des Juifs authentiques, il y en a très peu, mais il y en a malgré tout dans chaque génération. Ces Juifs-là, par leur étude de la Torah authentique, par l'accomplissement des commandements d'une manière authentique, vont purifier cet endroit-là. Et automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Qu'Israël est mérimim ou maalim, Israël va élever cet endroit, tous ces endroits qui étaient tombés dans, on pourrait dire, dans l'impureté la plus totale, ces endroits vont s'élever grâce à la présence d'Israël dans ces endroits. Juste encore une phrase et on arrête. Et comme ce que disent nos maîtres, et de cette phrase, on a la preuve que Rabbi Nachman fait surtout allusion au monde à venir, au moment de la délivrance. Effectivement, il y a un texte dans le Talmud qui dit Atidin batet artiot bekar kasot, shilmenu baem Torah ou barabim. Tous les lieux de plaisir qui se trouvent dans le monde occidental, les cinémas, les théâtres, les boîtes de nuit, tous ces lieux-là deviendront, dans le monde à venir, des lieux où on étudiera la Torah en public avec énormément de monde. Ça veut dire que tous ces lieux-là, qui étaient des lieux, on pourrait dire, de débauche ou simplement de recherche du plaisir, deviendront des lieux où la Torah sera étudiée et enseignée devant des milliers de personnes, un stade de foot, un théâtre, un cinéma, etc. Benishar gam ulelohenu, et tout reviendra à Dieu. Juste encore une phrase ou deux, je passe la parole à Eliaou. J'ai dit très sincèrement que j'avais beaucoup de mal à comprendre ce texte-là, parce que, je vais expliquer pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, les Juifs partout en exil sont des serpillères, et rien de plus. Je m'excuse de le dire, mais s'il y a eu des Juifs qui sont devenus des Juifs importants en Galoute, la grande majorité d'entre eux étaient de sales Juifs, ça veut dire des Juifs complètement assimilés, qui ne pensaient qu'à faire du pognon, et qui, comme Madoff ou d'autres, ils sont devenus très puissants. Mais on ne trouve pas dans toute l'histoire de l'exil des Juifs authentiques qui sont devenus puissants en exil. On ne l'a jamais trouvé. Il y a eu peut-être un cas ou deux sur des millénaires d'exil, mais la grande majorité de ceux qui sont devenus puissants sont des Juifs qui ont abandonné leur identité, qui se sont révoltés contre leurs origines et qui sont devenus de véritables crapules. D'ailleurs, c'est une des causes de l'antisémitisme, comme on sait, parce que les antisémites regardent toujours les crapules qui se trouvent parmi nous, et jamais ceux qui sont de vrais juifs. Donc, ce n'est pas possible que Rabbi Nachman fasse allusion à Madoff. Il ne fait pas allusion à Weinstein. Il ne fait pas allusion à toutes ces crapules-là. Donc, à qui il fait allusion? Il fait allusion à un juif authentique. Des juifs authentiques qui arrivent à s'élever au-dessus de ceux qui les écrasaient. Personnellement, je n'en connais pas dans toute l'histoire d'Israël, en exil. Même en Israël, on est encore plus ou moins dominé par les nations. Aujourd'hui, avec le nouveau gouvernement qu'on a, on sait très bien que ce gouvernement est complètement à la solde de Biden. Ce qu'il fera en cachette, j'en sais rien. En tout cas, officiellement, le ministre de l'armée Ashkenazi a été rendre visite à Biden il y a quelques jours et il lui a dit explicitement qu'Israël ne fera rien contre l'Iran sans l'accord des Américains. Et comme évidemment Biden fait tout pour que les Iraniens nous envoient une bombe atomique sur la tête, donc qu'est-ce qui va se passer? Donc la situation n'est pas facile quand on essaye de comparer ce texte à la réalité, ce n'est pas facile du tout. Peut-être, et je termine, peut-être que Rabbi Nachman fait allusion à quelque chose qui est pour l'instant encore complètement caché, comme le Or HaGanouz, la lumière cachée. Peut-être qu'effectivement, dans chaque pays où les Juifs étaient exilés, par exemple en Ukraine, Rabbi Nachman s'y trouvait, peut-être que ces tzadikim-là sont arrivés à dévoiler des étincelles de lumière qui étaient enfouies au plus profond de l'impureté. Pour l'instant, nous ne les voyons pas. Mais peut-être qu'un jour, ces lumières-là se dévoileront, et grâce au travail de ces justes-là, peut-être qu'à ce moment-là, Israël montera et s'élèvera au-dessus de tous ceux qui ont voulu l'écraser, le détruire pendant tout le temps de l'exil. Voilà, je ne rajoute rien, je passe la parole à Eliaou, et je voudrais voir comment Eliaou va réagir à un texte aussi compliqué que celui-là. Qu'est-ce que tu dis ?
Alors, moi, il y a plusieurs personnages dans la Torah qui m'interpellent et qui sont partis en exil. Donc, on voit premièrement Yaakov, qui est parti en exil chez Lavan et qui s'est retrouvé donc sous sa botte, hein, on peut le dire comme ça.
C'est-à-dire que... Ah, c'est sûr, il l'a complètement écrasé, puisque même au niveau du mariage, il lui a donné une autre femme que celle qu'il voulait.
Voilà, donc il l'a complètement écrasé. On sait que c'est un des signes aussi de l'exil, le passage chez Lavan. Et on voit que Yaakov, parce que c'était un homme authentique, comme vous dites, qui avait la Torah, mais qui aussi avançait dans ce monde, vu qu'il a reçu les deux bénédictions, a réussi à retourner la situation. Donc il est passé d'une femme qu'il ne voulait pas vraiment épouser à réussir à avoir la femme qui devait être avec lui, son zivoug, Et il est passé aussi d'une servitude avec la vanne, où au final, il a réussi de rien à avoir un troupeau énorme. Donc Yaakov, c'est quand même l'exemple du peuple juif à travers l'exil.
Oui, mais il précise bien des juifs authentiques parmi nous.
Bien sûr.
Très bien. Parce que Yaakov est le symbole de l'authenticité la plus infinie qui existe dans notre peuple.
Exactement. C'est vraiment Yaakov, c'est le juif de l'exil. Israël, peut-être pas, quand il a changé de nom. Mais Yaakov, c'est vraiment la manifestation de ce que les juifs vont trouver en exil. C'est-à-dire qu'ils vont arriver dans tous les pays où ils vont être. Ils vont arriver en plus avec pas grand-chose. On va leur tendre la main pour mieux profiter d'eux, de leur savoir-faire, parce que les Juifs ont quand même un génie et un savoir-faire dans beaucoup de domaines. Et une fois qu'ils vont enrichir le royaume, on va vouloir la faire à l'envers. Et c'est ce qui s'est passé à travers tous les exils et tous les moments de tous les pays par où on est passé. On voit bien quand même qu'à la fin, Yaakov réussit à multiplier son troupeau, partir avec ses femmes et ses enfants.
Alors, encore une fois, je rebondis sur ce que tu dis qui est une extrême vérité. C'est vrai, Eliaou. Mais d'abord, c'est une histoire biblique. Il s'agit d'un homme qu'aucun juif ne peut arriver à l'ombre de l'ombre de l'ombre de l'ombre de l'ombre de l'ombre de sa chaussette. Puisqu'il s'agit de Yaakov. Deuxièmement, en exil, on n'a jamais vu ça. On n'a vu nulle part, même Rabbi Nachman était écrasé, il n'a pas pu s'élever au-dessus des Goïm. Même le Baal Shem Tov, même le Gaon de Vilna, même Rashi, personne. C'était des juifs de l'exil. Et peut-être, encore une fois, ton exemple est fabuleux, mais peut-être que l'histoire de Yaakov et sa victoire contre Laban, sa victoire fait peut-être allusion au moment de la délivrance finale. Mais pas forcément que pendant le temps de l'exil, on va arriver à s'élever au-dessus des nations. Puisque dans la réalité, là tu parles d'une histoire biblique, tu as raison. Mais, et la Torah est l'image de toute l'histoire d'Israël. Mais est-ce qu'on doit prendre la victoire de Yaakov contre Laban pendant le temps de l'exil? Parce que n'oublie pas qu'au moment où il arrive à s'enrichir, c'est au moment où il avait déjà pensé à revenir en Eretz Israël. Donc si on traduit le message, ça parle de la délivrance, du retour, de la fin de l'exil. Peut-être qu'à la fin de l'exil, Israël arrive effectivement à s'élever au-dessus de tous ses oppresseurs. Mais est-ce que pendant l'exil, oui?
Donc ça continue. C'est tout le travail justement du juif de la galoute, de la gola comme il dit dans le texte. Son travail, ça, tant qu'il est en exil et qu'il ne se bat pas contre l'ange d'Essav. Donc, c'est-à-dire se battre contre l'ange d'Essav, c'est-à-dire que tu te bats, c'est un combat. Donc, un combat, ça veut bien dire que Essav est rusé, l'ange d'Essav, c'est le Samer même, on sait que c'est le Satan, d'accord? Donc, il va falloir se battre contre lui avec des armes réelles. Donc, on voit bien qu'il devient, Israël. Donc, le passage entre avant 39, le passage de 39-45 et le passage de 45 à 47, on voit bien qu'il y a eu le combat, il y a eu Yaakov, il y a eu le combat contre l'ange d'Essav, parce que si on peut bien parler d'un Satan, on sait bien qu'est-ce qui s'est passé pendant 39-45, et on voit bien que dans ce combat où Yaakov a été mis à la pire de toutes les épreuves, il a réussi à survivre et redevenir Israël. Donc on voit bien qu'à la base, face à un empire comme l'Allemagne, qui a quand même réussi à conquérir presque toute l'Europe, quoi, un petit peuple, un petit village d'Astérix, a quand même réussi à survivre, peu importe comment, par tous les moyens possibles, il a réussi à survivre et à revenir sur sa terre, en tant qu'Israël, pas en tant qu'Yaakov. Donc on voit bien que la botte nazie qui était sur la tête des petits juifs, enfin en tout cas pour eux, qu'on allait exterminer, s'est retournée contre eux. Et aujourd'hui, ce n'est plus du tout eux les maîtres. Ils se cachent aujourd'hui, les nazis. Ils se cachent en Iran, d'accord, derrière le drapeau iranien, mais ils se cachent. Ils ne sont plus officiels avec la croix gammée. Donc leur désir de domination s'est retourné contre eux. Amalek est encore obligé d'aller se cacher derrière un autre drapeau pour pouvoir réussir à aller à ses fins. Donc on voit bien que même dans l'histoire contemporaine, sur le peuple en entier, je ne parle pas du personnage, impossible qu'une nation n'ait réussi à nous dominer longtemps. Et on le voit depuis le départ. On passe de l'Égypte à Babylone, à la Perse, à la Grecque, à la Grèce, à toutes les nations qui ont voulu dominer le peuple juif. Ils ont réussi un court moment, mais tôt ou tard, tout s'inverse. Et c'est pour ça que j'ai pris l'histoire de Yaakov, parce que Yaakov, c'est ce qui s'est passé. Laban, il avait toutes les cartes de son côté. Il n'aurait jamais pensé que Yaakov allait multiplier son troupeau. Yaakov a trouvé une astuce. Il a compris qu'en faisant se reproduire devant telle image, les animaux du troupeau allaient se multiplier. Donc il n'est pas resté juste un croyant stupide qui attendait qu'Hachem fasse tout pour lui. Il a agi. Il a vu qu'il était avec quelqu'un de rusé. Il a utilisé la ruse.
Pour aller un petit peu dans ton sens, on peut même dire que même déjà avant la Shoah, dans les situations les pires en Russie, par exemple, quand il y a eu tous les pogroms, en Ukraine, en Russie, le pogrom de Kishinev, le pogrom de Odessa, etc., ça veut dire que les Russes et les Ukrainiens surtout avaient véritablement l'intention d'affaiblir au maximum Israël. C'est précisément ces pogroms qui ont réveillé la conscience d'Israël et a amené des milliers de Russes et d'Ukrainiens à fuir l'Europe pour venir, fin du 19e siècle, début du 20e siècle, s'installer en Israël, fonder les premières coopératives, fonder les premiers villages et finalement préparer la renaissance d'Israël sur sa terre. Précisément à un moment où Israël était écrasé. D'ailleurs, pour aller confirmer encore plus ce que tu dis, il s'est passé la même chose avec l'Inquisition. Les Juifs sont brûlés vifs par centaines de milliers. C'est à ce moment-là que des centaines de Juifs décident de repartir en Israël et de reconstruire la première ville d'Israël après 1500 ans d'exil, la ville de Tzfat. Et Rabbi Shimon avait dit clairement avant, déjà 1500 ans avant, que la délivrance commencerait dans le Galiléa Elion, dans la Haute Galilée. Il n'avait pas cité le nom de Tzfat, mais bon. On sait aujourd'hui en Israël, la capitale de la Galilée, c'est Tzfat. Donc sans doute, enfin, c'est sûr qu'il faisait allusion à Tzfat. Et finalement, le premier vrai retour d'Israël sur sa terre, c'était grâce à l'Inquisition. Le plus grand retour à la fin du 19e siècle, grâce au pogrom en Russie. La renaissance officielle d'Israël sur sa terre, grâce à la Shoah. Donc c'est vrai qu'on voit effectivement ce phénomène qu'à chaque fois qu'on est complètement écrasé, c'est là qu'Israël se relève comme jamais.
Je dirais même que c'est. On voit par exemple pour les antisémites et les antisionistes en général, pour eux, on domine le monde. C'est l'inconscient, dans le subconscient collectif, que les juifs dominent le monde par le complot, par la finance, par tout ce qu'on peut entendre. Mais c'est quand même dans leur subconscient. Et souvent, c'est les ennemis d'Israël. Donc si eux, ils ont le sentiment qu'on domine le monde, parce que si, franchement, imagine, peut-être qu'ils inventent des choses pour nous, comme Bilaam, ils essaient de nous maudire. OK. Mais tu ne vas pas chercher à détruire un peuple qui n'est pas dangereux pour toi. Donc ça veut bien dire une chose. Ça veut bien dire que pour eux, réellement, on domine le monde. Ils ont vraiment la sensation que le peuple juif domine le monde. Et je suis désolé, c'est vrai. Pourquoi je dis ça, excusez-moi, je vais le dire pourquoi. Pourquoi on domine le monde? Parce qu'on est le peuple choisi. Comme vous le dites, on n'est pas le peuple élu. Donc ils ont la sensation que Hachem a choisi un peuple pour révéler quelque chose. Et
Oui, quand tu parles de domination, tu parles de domination financière comme Madoff, ou tu parles de dimension spirituelle comme le Baal Shem Tov? De quelle domination tu parles?
dans tous les domaines, que ce soit dans la science, que ce soit dans la finance, que ce soit dans la spiritualité, dans tous les domaines. Et
Oui,
c'est
mais le problème, Eliaou, c'est que dans tous les domaines, sauf le domaine spirituel, tous ceux qui, parmi nous, qui sont arrivés au poste, excuse-moi, je veux dire, c'est des sales juifs. Ça veut dire, en vérité, c'est ce que le Zohar appelle le Erev Rav. Ça veut dire, ce sont des infiltrés parmi nous qui ne sont absolument pas juifs, ou qui sont nés de mère juive mais qui n'ont pas une âme juive, comme par exemple quelqu'un peut naître non juif mais avoir une âme juive et après se convertir, ce qui est vrai chez les nations est vrai chez nous. Il y a chez nous des hommes qui naissent de mère juive mais qui n'ont pas d'âme juive, comme il y a chez les nations des hommes ou des femmes qui naissent catholiques et qui après vont devenir de grands juifs, comme Rabbi Meir, comme quantité d'autres. Et dans notre génération, on en voit des milliers qui se convertissent. Donc encore une fois, pour moi, quand tu parles de la finance, etc., qui est d'ailleurs, encore une fois, le fer de lance de l'antisémitisme, parce que justement, ce sont des gens qui n'ont rien de juif, quoi, à part le nez crochu, mais c'est tout. Mais ils n'ont rien de juif.
Ok, bon, alors on va rentrer dans le Tarlès. La famille Rothschild, à la base, c'est une famille juive. Peut-être qu'aujourd'hui, ils ne sont plus juifs. Peut-être qu'aujourd'hui, ils ont fait des mariages. Mais à la base, le pionnier des Rothschild, qui vivait dans un ghetto, il ne faut pas oublier qu'ils venaient d'un ghetto, ils n'ont pas grandi dans l'aristocratie, ont développé un système qui, au tout démarrage, au tout départ, enseignait à ses enfants à être strictement droit et correct.
Tu as 100% raison, Eliaou. Mais le problème, c'est que justement, le fondateur de la famille Rothschild était un homme d'une droiture, d'une moralité et même un grand pratiquant sur le plan Torah, un énorme, énorme, un juif authentique. Mais au bout d'une ou deux générations, tous ses descendants sont devenus des crapules. Et aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus de juifs dans la famille Rothschild. Au niveau, je parle de ceux qui tiennent les banques, c'est pratiquement tous les enfants de mariage mixte dont la mère était non-juive, donc les enfants sont non-juifs, même s'ils portent le nom Rothschild.
Parce qu'ils ont été récupérés, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le juif, je parle comme ça, je suis obligé de parler comme ça, va créer quelque chose, va développer un système, il va être récupéré. On va prendre Einstein, c'est la même chose. Einstein, c'était peut-être pas un pratiquant, mais...
Un homme bien, ça c'est sûr.
C'était un homme qui recherchait la vérité. Lui, il l'a recherché à travers la science et à travers l'univers, donc c'est lié à la Torah. Pour moi, il n'y a pas de déconnexion avec la Torah, c'est complètement lié. Et il a découvert des formules, il a découvert des choses qui, si elles étaient utilisées de façon positive, pouvaient faire refleurir le désert, mais ça a été récupéré par des forces négatives qui en ont construit aujourd'hui le décompte qu'on voit avec l'Iran, une bombe atomique au-dessus de la tête de l'humanité tout entière.
D'ailleurs, pour confirmer ce que tu dis, bravo, c'est ce qui s'est passé avec Yosef et Pharaon. Pharaon s'est servi de Yosef pour transformer en esclaves, pas seulement les Juifs, toute l'Égypte, comme Rachid le dit clairement dans la Torah, à partir d'un verset. C'est-à-dire que Pharaon, finalement, a transformé tout son peuple en esclave pour mieux servir ses intérêts personnels. Il a utilisé un juif, parce que malgré tout, même si Yosef avait un pouvoir énorme, il était quand même sous l'emprise de Pharaon, il a utilisé un juif pour mieux régner, pour mieux écraser même son propre peuple.
Mais c'est ça l'exil. C'est ça l'exil. C'est que l'exil, on va être éparpillés dans des royaumes, les rois ont peur. Ils savent très bien, il y a des juifs qui arrivent, c'est dangereux. Soit ils vont nous mettre une révolution, soit ils vont déstabiliser le pays, soit ils vont complètement désorganiser la mainmise qu'on a sur les âmes de la population et la population elle-même. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les juifs avec eux, ils les utilisent en façade, et c'est pour ça que la deuxième partie du texte de Rabbeinu est importante. Il va les utiliser en façade, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous reproche? D'être dans les médias. Les juifs sont partout, dans les médias, dans le cinéma. Donc ils nous mettent en première ligne. Et les juifs sont...
Mais encore une fois, Eliaou, ceux qui sont dans les médias, dans les cinémas, etc., Hollywood, les deux tiers, c'est des juifs, mais pour moi, ce n'est pas des juifs. Ils mangent du porc, ils ne font pas Shabbat, ils couchent à droite et à gauche avec n'importe qui, ce sont des débauchés totaux. Ce ne sont pas des juifs. Non. Ils sont nés de mère juive, mais ils ont une âme non juive.
Pour moi, je pense que ce sont des juifs, mais qui construisent l'Égypte. Ce sont des esclaves. Comme le Erev Rav. Le Erev Rav, c'était aussi des esclaves.
C'est le Erev Rav, c'est ce que je dis. Voilà. Ça veut dire, en vérité, ils sont au service des puissances maléfiques.
Voilà, ils construisent les pyramides, ils construisent l'Égypte, ils construisent le système.
Mais Rabbi Nachman ne parle pas de ce genre de juifs, il parle de juifs authentiques.
Je ne suis pas sûr. Moi, je pense que, justement, les puissances en place utilisent des juifs corruptibles au départ, parce qu'on était quand même au 49e degré d'impureté, et tout le peuple dans l'ensemble, pratiquement, à part les Lévim, qui eux étaient restés proches de la Torah. Le reste du peuple ensemble était tombé dans la débauche, dans tout le système égyptien. Je pense qu'il utilise à Kadosh Baruch Hu ces Neshamot qui sont un peu fragiles. Elles sont absorbées par les systèmes dans lesquels elles rentrent pour les mettre en première ligne et surtout pour qu'on dise à la fin, regardez, c'est pas nous, c'est les Juifs. Donc le pouvoir se cache derrière les Juifs, les Amalécites. On a compris le système pour qu'à la fin, ils nous disent qu'on trahisse comme on le
voit. C'est-à-dire que si ça ne va pas, on accuse les Juifs, quoi.
Voilà. Et voilà. Donc, les âmes un peu faibles du peuple qui se détournent de la Torah, malheureusement, si tu ne sers pas Hachem, c'est écrit noir sur blanc, tu serviras tes oppresseurs. Donc, serve les oppresseurs. Mais comme Hachem est fort, il utilise ces Juifs qui sont faibles pour renverser le royaume à un moment ou à un autre. Parce que tous ces Juifs vont se réveiller à un moment. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on nous reproche. On nous reproche d'être des agents doubles dans les pays où on est. L'Allemagne pensait qu'on collaborait avec la Russie avant 39-45. Les États-Unis, on l'a vu avec, comment il s'appelle, l'espion qui a été arrêté par les États-Unis, Jonathan Pollard.
Oui.
Il y a toujours ça. C'est-à-dire que les nations ont toujours l'impression qu'on a un double miroir, un double face. Mais ils ont raison. Parce que nous, on ne travaille pas pour eux. On travaille pour Hachem. On ne pourra jamais les servir complètement. Même si on tombe.
Pourquoi comment on appelle ça, ceux qui travaillent à Hollywood travaillent pour Hachem?
Ils ne le savent pas.
Ils travaillent pour leur fric, un point, c'est tout.
Eux, ils ne le savent pas. Mais oui, ils travaillent pour Hachem. Mais eux, ils ont fait le choix de servir les forces obscures. Mais dans eux aussi, Hachem les récupère. Il les sélectionne et de ça, il va sortir quelque chose. C'est pour ça que la suite, vous parlez d'Hollywood, et c'est le futur qu'annonce Rabbi Nachman, que les théâtres, Hollywood, tous ces endroits-là
deviendront des lieux de Torah.
Et ils sont en train de le faire. Là, il y a eu plusieurs films qui ont été utilisés, l'air de rien, comme Matrix, j'en avais parlé une fois, ou le film Lucy de Luc Besson. Donc, c'est des films d'Hollywood, des super productions américaines, mais derrière, il y a des signaux de Géoula. Même si à la base, c'est utilisé pour manipuler les masses, et pour orienter les masses dans le sens où on veut, on sait que César disait « Donnez-leur le cirque, ils nous lâcheront la grappe. Ouais. »
La démocratie. Mais il y aura... Ils nous foutent la paix.
Voilà. Mais il y aura toujours des Juifs comme Moshe Rabbeinu qui, à un moment, vont se réveiller du système et qui sont à des postes clés du système et qui ont la capacité de renverser la vapeur.
Marc, c'est intéressant parce que Moshe, le premier libérateur qui est le modèle de la délivrance finale aussi, comme le disent nos maîtres, a grandi dans la maison d'un dictateur.
Bien sûr.
A grandi dans la maison de Pharaon. Ça veut dire que finalement, celui qui va sauver Israël a été éduqué par les forces contraires.
C'est ça l'histoire. C'est l'histoire. C'est-à-dire que Moshe, il n'avait même pas conscience qu'il allait être le libérateur. Moshe, il n'en avait même pas conscience de ça. Mmh. Et il a commencé à voir la souffrance de ses frères. Ça veut dire qu'avant, il pensait comme un Égyptien. Et à un moment, il s'est réveillé. C'est-à-dire, à un moment, Hachem, il a activé sa Neshama. Hop, lui, je l'active. Et hop, c'est parti. Il va commencer à se réveiller. Il va commencer à comprendre ce pourquoi il est là. Et il va faire changer les choses. Et ça, c'est la capacité. C'est pour ça qu'il y a cette capacité à chaque fois de renverser la vapeur sur les tyrans. Et c'est ce qu'il explique.
Remarque, la révolution bolchevique, il y avait Trotsky, c'est parti de Marx. Bon, après Trotsky s'est fait assassiner par Staline, mais d'ailleurs c'est intéressant, tu sais, j'ai déjà raconté cette histoire-là quand j'étais très très jeune, il y a de nombreuses années. J'ai étudié à Bnei Brak, à l'époque c'était l'une des plus grandes yeshivas du monde, c'est la yeshiva Slobodka. Et il y a un jeune israélien qui vient vers moi, qui me dit: tu es d'accord qu'on étudie ensemble? Je sais pas, il était peut-être intéressé par étudier avec un français. Et je lui dis, bon, je réponds en hébreu, pourquoi pas. Et je lui demande comment tu t'appelles. Alors il me dit, écoute, mon nom a changé, mais mon grand-père s'appelait Trotsky. Je dis, quoi? Quel Trotsky? Le Trotsky, le révolutionnaire, là, qui s'est fait assassiner en Amérique du Sud. Il me dit, oui, je suis le petit-fils de Trotsky, mais un ultra-orthodoxe. Je suis le petit-fils de Trotsky. Tu dis, mais comment c'est possible? Mais Trotsky, il était bolchevique, complètement assimilé. Il dit, oui, mais quand Trotsky a été tué, mon père a fait tchouva. Et il est revenu à la Torah. Et voilà, aujourd'hui, je suis ici en Israël, à Bnebrak, avec un chapeau et des peyotes. Et le petit, j'ai connu le petit-fils de Trotsky. Ça veut dire que c'est exactement ce qu'on explique finalement petit à petit. Ça veut dire que Trotsky, moi je dis pas que c'était lui, je dirais pas que c'était un sale juif parce que bon, il était complètement assimilé d'un autre côté. Je veux dire, il a donné sa vie pour sauver les gens opprimés. Mais de l'autre côté, il n'avait rien de Torah, il connaissait rien de la Torah. Et son petit-fils étudie dans une des plus grandes yeshivot du monde. Donc c'est vrai qu'il y a constamment ce renversement. Tu as raison.
De toute façon, pour ramener les étincelles, les nitzotzot qui sont dispersés à travers le monde, si on arrive avec la Torah, la barbe, les tefillin, ils ne nous laisseront pas rentrer. Pour qu'on puisse rentrer, il faut qu'on soit, et c'est ce qu'on nous reproche aussi, comme des caméléons. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait la capacité de s'assimiler. En s'assimilant, je n'ai pas dit que c'est bien l'assimilation, mais en s'assimilant, en rentrant à l'intérieur d'un peuple, comme la France, comme d'autres pays, en prenant vraiment l'identité du pays, on peut en faire ressortir l'essence.
Parce que inconsciemment ou consciemment, on va chercher, on pourrait dire, toutes les étincelles de sainteté qui sont tombées dans l'impureté, et on les attrape, on les relève, et finalement, en les relevant, d'une certaine manière, on se relève nous-mêmes, mais on transforme l'impureté en pureté.
Bien sûr. Et on vit la vie du peuple. On
D'ailleurs,
ressent.
tu sais que c'est exactement ce que l'Agmara dit, ça confirme exactement ce texte-là. Que l'une des raisons, l'Agmara dit, en étonnant, l'Agmara dit pourquoi on est parti en exil? Ben, si moi je dois répondre, ben à cause de nos fautes. L'Agmara dit non. C'est-à-dire ça n'exclut pas à cause de nos fautes, mais l'Agmara donne une raison profonde. Pour aller chercher les étincelles perdues dans le monde et les ramener vers Israël, c'est-à-dire la conversion. Parce que comment ça fonctionne une conversion? Eh ben, tu as des juifs qui s'installent, par exemple, je ne sais pas moi, on va dire en Bretagne, très bien. Ils étudient la Torah. Ça dégage des énergies qui vont réveiller les âmes juives perdues, qui sont enfouies dans un corps non juif, et tout d'un coup, paf, une prise de conscience et un retour à la maison. Ça veut dire que finalement, c'est le modèle de la récupération des étincelles perdues qui finalement, cette âme juive était tout en bas, tout en bas, tout en bas, et finalement, elle revient à sa source. C'est aussi le modèle de ce que dit Rabbi Nachman.
Exactement, il faut aller dans les profondeurs pour aller chercher ça. Et c'est l'histoire de Yosef. Il a fallu qu'il aille dans les cachots égyptiens pour, au final, libérer tout Israël et toutes les Neshamot. Et en plus, le Erev Rav, parce qu'au final, c'est Moshe qui a fait sortir le Erev Rav. Mais le Erev Rav, il ne faut pas oublier que c'est des étincelles d'Adam Harishon qui sont très, très dures à faire revenir. C'est un lourd fardeau et ils sont très difficiles à faire changer. Mais si Moshe les a ramenés, c'est qu'ils savaient qu'ils étaient récupérables. Mais ça va dépendre de notre influence. C'est-à-dire, est-ce que notre influence est plus forte qu'eux? Ou est-ce que c'est leur influence à eux qui est plus forte? D'où le veau d'or, d'où le fait qu'on soit tombé dans l'idolâtrie. Mais on a la capacité.
La faute du Vaudor, c'est lié au Erevra, pas Israël. Israël a suivi comme des moutons, mais on va dire l'impulsion du Vaudor, c'est le Erevra.
Parce qu'on était influencé par le Erev Rav, alors que nous, on aurait dû influencer le Erev Rav. C'est une question d'influence. Quelle influence on va donner? Est-ce qu'on a la capacité de faire sortir ces Neshamot? Mais Hachem nous a donné la capacité, en tant que peuple, vu qu'on est une extraction des 70 nations, d'être comme. On a la capacité de rentrer dans tous les moules.
Donc peut-être justement c'est peut-être ça le secret qu'explique Rabbi Nachman. Justement, comme on est le microcosme des 70 nations, puisque on est descendu en Égypte, on était 70 personnes, et tous nos commentaires disent ça fait allusion au fait que l'Israël n'est pas un peuple en soi, mais le microcosme de l'humanité tout entière. Finalement, l'humanité tout entière est tombée depuis la faute de Adam, et on le voit dans la réalité. Et finalement, le rôle d'Israël, c'est de relever l'humanité en se relevant lui-même. Et en se relevant lui-même, il détruit le mal en écrasant les oppresseurs, pas seulement d'Israël, mais les oppresseurs de l'humanité tout entière. Car on sait très bien que toutes les crapules qu'il y a dans ce monde veulent détruire Israël pour après plus facilement détruire le monde entier. Parce qu'ils savent que tant qu'Israël est dans ce monde, ils ne peuvent pas dominer le monde entier.
Bien sûr.
Donc ça a toujours été le projet, d'abord l'extermination des Juifs, et puis après, on transforme l'humanité tout entière en esclaves.
Mais d'accord, c'est exactement ça. On vient comme des sauveteurs. On arrive comme, eux nous voient comme des envahisseurs, mais en fait, on arrive comme des sauveteurs. Libérer déjà la matière, parce que c'est notre but, le rôle d'Israël, c'est d'élever la matière. Donc on vient libérer la matière, c'est pour ça qu'on réussit dans les domaines du commerce, c'est pour ça qu'on réussit dans le domaine de la science, c'est pour ça qu'on réussit dans tous les domaines. On vient élever la matière, pourquoi? Parce qu'on a la bracha. Mais peut-être qu'un gars comme Madoff, peut-être, j'en sais rien, il avait un arrière-grand-père qui avait beaucoup de mérite et récolte les mérites de son arrière-grand-père. J'en sais rien, on n'est pas dans les calculs d'Hachem. Et lui, il a mal utilisé cet héritage, c'est un héritier, et qui a pourri son héritage. Et il est payé maintenant. Peut-être, j'en sais rien.
Il vient de mourir, d'ailleurs, je crois, en prison, là. Il vient de mourir.
Je ne sais pas. Mais peut-être que c'est ça.
Oui, il y a quelques semaines, il vient de mourir en prison.
Maintenant, on peut voir aussi que, vu qu'on est dans la paracha de Balak, on voit que Bilam, je le lisais ce matin sur le Koumash, Bilam est venu sur son ânesse. D'accord ? Donc, vous avez souvent expliqué que l'âne, ça symbolise la matière dans la chassidou.
En hébreu, chamor veut dire chomer, la matière.
La matière. Donc là, c'est une ânesse.
Que l'âne est l'animal le plus matériel qui existe. Quoi. Il n'a aucune intelligence, il fait que yin, quoi.
Donc, c'est la matière féminine. Mm-hmm. Bilam vient maudire Israël sur la technologie. Il vient maudire sur tous les outils qu'on utilise aujourd'hui. C'est-à-dire, il va utiliser Internet pour faire monter l'antisionisme.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, à nouveau, les nations, enfin les dirigeants, pas les nations, veulent nous détruire parce qu'ils se rendent compte que dans les 20 années à venir, la plus grande puissance du monde sera Israël, puisqu'on est les premiers dans la technologie. Donc, ils ont à nouveau peur, ils veulent à nouveau nous détruire.
On est d'accord. Donc, c'est ça l'histoire de Bilam. Il vient avec la technologie, il utilise les moyens, les médias. Mmh. On dit souvent les médias sont aux mains des Juifs. Je suis obligé de prendre tous les stéréotypes parce que pour moi, ce texte-là parle de tous les stéréotypes et ça nous permet de comprendre certaines choses profondes sur l'antisémitisme et la jalousie. Mais
regarde, je m'excuse de t'interrompre. Regarde le journal Le Monde, le journal le plus antisémite et antisioniste qu'il y a dans le monde. Il appartient à des Juifs. Le Monde appartient à des Juifs. Et c'est le journal le plus crapuleux qu'il y a sur Terre, le plus antisémite et le plus antisioniste. Il est entre les mains de Juifs.
Parce que le plus gros business aujourd'hui, c'est s'attaquer aux Juifs. On le voit avec Dieudonné et Soral. Quand ils ont commencé à parler des Juifs, ils ont fait du buzz. C'est-à-dire parler des Juifs aujourd'hui, ou même Hitler Marchemo. C'était un peintre raté, il est passé complètement à côté de la plaque. Quand il a commencé à s'attaquer aux Juifs, il a commencé à monter. Mm-hmm. C'est un business.
Alors, sache que c'est un enseignement explicite de nos maîtres qui disent que tout celui qui s'attaque à Israël devient un dirigeant de ce monde. Je l'ai traduit en français, c'est une phrase explicite dans le Talmud. Celui qui s'attaque à Israël devient un dirigeant de ce monde.
Donc, on a la clé. On a la clé. La clé, c'est ça. C'est-à-dire que tu t'attaques à Israël, à un Israël faible. Parce que tu ne peux pas devenir dirigeant sur un Israël fort qui respecte...
Non, à l'Israël en exil, bien évidemment.
L'Israël, quand il est faible. Tu prends le pouvoir sur lui, tu le domines, tu t'enrichis sur son dos, mais tôt ou tard, tout va s'inverser. Tôt ou tard, tout va s'inverser. Tu ne pourras pas maintenir longtemps ton pouvoir, mais on va te laisser monter. Et maintenant, Hachem, il récupère toutes les forces. Il va utiliser ce tyran, il va utiliser ce dirigeant pour faire teshuva au juif qui est tombé. Donc, au final, peu importe, et c'est ça qu'il a vu Balak, Bilam, parce qu'il détestait plus les Juifs que Balak, que le roi Balak, Bilam. Il les haïssait. Mais ce qu'il a vu, c'est que même si je les maudis, ma malédiction se transformera en bénédiction. Je ne peux pas les maudire. C'est-à-dire que peu importe ce que les peuples, les tyrans vont nous faire, ça se transformera toujours en bien pour les Juifs. Et plus vous nous faites du mal, plus la lumière qui va en sortir sera grande.
Alors ça veut dire ce que tu expliques là, c'est exactement ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est en vérité la malédiction, que c'est transformé en malédiction? C'est pas apprendre à la lettre. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on nous fait du mal, ça se transforme en bénédiction pour nous.
Exactement.
On nous a exterminés pendant la Shoah. 3 ans après seulement, on renaît sur notre terre. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on nous attaque, en vérité, on nous bénit. Comme je dis toujours, les vrais antisémites, bon, comme ils sont de toute façon des crétins, ils ne comprendront pas ce que je dis, mais les vrais antisémites, si vraiment ils voulaient nous exterminer, ils nous foutent la paix pendant 100 ans, il n'y a plus un juif sur terre.
Le Nahash l'a compris, ça.
Parce que, parce qu'on s'assimilerait complètement.
Mais le
Donc,
Nahash.
en vérité, nos plus grands amis sont les antisémites, parce que grâce à eux, on est toujours là.
On est
C'est-à-dire que
d'accord
c'est
avec
eux qui nous réveillent.
toi. J'adore cette phrase, Rav. Nos plus grands amis sont nos antisémites. Ils n'ont toujours pas compris ça. Mais le Nahash a compris, par contre. Le Nahash a compris qu'en étant fourbe, en amenant l'amour, il arrivait à casser un peu la force du peuple juif. Mais tout ça, c'est entre nos mains. C'est-à-dire que si un juif, il reste accroché à la Torah, il n'est pas corruptible, il reste lié à son créateur. Aucun tyran ne peut prendre le dessus sur lui. C'est une promesse façon qui est écrit noir sur blanc par Hachem. Si seulement mon peuple revenait vers moi, rien ne pourrait vous arriver. C'est que quand vous
Au
éloignez.
niveau du peuple, il faut bien préciser au niveau du peuple, parce qu'au niveau de l'individu, Rabbi Akiva a quand même été torturé à mort. Mais au niveau du peuple, tu as raison. Si la majorité, parce qu'on va d'après la majorité dans la loi juive, si la majorité du peuple revenait à Hachem, personne ne pourrait nous monter dessus. C'est pas possible.
C'est-à-dire qu'avant même qu'on lève le sabre ou l'épée, nos ennemis tombent par eux-mêmes. Il se passe des choses. Et de toute façon, on ne le voit pas. Ils s'en pensent plein des choses dans le monde. Il y a plein de mauvais pièges, de mauvais plans qui sont dirigés contre le peuple juif. Et nous, on ne voit pas tout ce que Hachem fait, tous les pièges, tous les croche-pattes qu'il leur fait. Parce que là, ça, c'est la malédiction. S'en prendre au peuple juif, c'est se maudire tout seul. Tu te maudis, c'est comme si tu t'en prends à Hachem directement. Par contre, Hachem te laisse faire parce que ce qu'il veut derrière, c'est que le peuple fasse tshuva.
D'ailleurs, Bilam a été tué par Pinchas après.
Bien sûr.
Pinchas, c'est lui qui a tué Bilam. Ça veut dire que celui qui voulait nous maudire, finalement, a été tué par Pinchas. Encore une fois, ce retournement.
Le retournement tout le temps, ça se retourne. C'est ça qu'il a compris, Bilam. C'est que tu ne peux pas venir à bout de ce peuple, il est béni, quoi que tu fasses. Même si, malheureusement, Chas v'Shalom, une partie du peuple faute et tombe, ce qui fait qu'on se sort de notre bouclier, on est moins protégé et les flèches peuvent nous atteindre, au final, ces flèches-là seront faites pour nous rendre plus forts et nous faire faire teshuva. Il n'y a aucune solution, il est indestructible ce peuple. Tu n'y pourras rien. Tu ne pourras que le bénir au final.
Mais encore une fois, pas pour nous en tant que tels, mais pour le salut de l'humanité tout entière.
Mais bien sûr, c'est tout le
Ça, c'est
but.
très important de le rajouter. C'est pas, on n'est pas encore une fois le peuple élu, mais le peuple choisi pour le sauvetage de l'humanité tout entière. Ça veut dire qu'on ne peut pas disparaître parce que l'humanité tout entière ne peut pas disparaître.
Bien
Et
sûr.
comme nous, on est le microcosme de l'humanité tout entière, et de la même manière que l'humanité ne peut pas disparaître, c'est une promesse faite par Dieu dans la Torah elle-même après le Maboul, je ne détruirai plus jamais le monde entier. Donc Israël, qui est l'échantillon de l'humanité tout entière, ne peut pas disparaître non plus.
Et bien sûr, de toute façon, si le peuple juif s'enorgueillit du choix d'Hachem, mais il passe complètement à côté de la plaque.
Absolument.
Le but, ce n'est pas du tout d'être un peuple supérieur par rapport aux nations. Pas du tout.
On n'est pas du tout supérieur par rapport aux
On
nations.
est responsable. Et c'est pour ça, malheureusement, qu'il nous arrive aussi tous les malheurs du monde. Parce que qui dit responsabilité, dit assumer le pire comme le meilleur. C'est ça le problème. Maintenant, les antisémites voudraient prendre la bénédiction et sans la responsabilité qui va avec. C'est là qu'il y a un bug. C'est là qu'il y a un problème. Ils veulent être Israël parce qu'ils veulent remplacer Israël.
Et pas les souffrances d'Israël.
Mais ils ne veulent pas prendre les souffrances, ils ne veulent pas prendre la responsabilité parce qu'il y a tout le lot qui va avec derrière tout ça. Et on le voit très bien. Vous avez parlé de convertis tout à l'heure. À la fin des temps, quand le Mélèrach Hamashiach va se révéler, on va voir la Géoula, il n'y aura plus de conversion. Tout va se fermer.
Non, mais pourquoi? Parce que la Gemara explique que le Mashiach ne viendra que lorsque la dernière des âmes perdues sera revenue. Il n'y aura plus de conversion. Pourquoi? Parce que toutes les âmes perdues seront revenues.
Et donc, les autres Neshamot ne seront pas des conversions sincères.
C'est-à-dire non, parce que ce ne sont pas des âmes perdues.
Exactement.
C'est pour ça qu'on ne les acceptera pas.
Exactement. Donc, toute cette histoire d'être dispersée à travers l'humanité, il y a ceux qui vont nous voir d'un bon œil, et il y a ceux qui vont nous voir de l'œil de Bilam ou de Balak. Donc, chacun va voir à sa sauce. Et en général, ceux qui nous voient du mauvais œil, c'est la même chose que ceux qui de ce qu'ont vécu les explorateurs. C'est-à-dire que ils vont perdre le pouvoir. C'est ça qu'ils voient. Là où il y a un juif, tu vas perdre le pouvoir parce que ton pouvoir est fondé sur le mensonge. Ton pouvoir est fondé sur la manipulation. Donc, ils craignent. Ils craignent. C'est pour ça qu'un tyran comme Hitler ou comme Staline, Marchemont, tous ces tyrans, Nabucodonosor, Pharaon, tous ces tyrans qui contrôlaient le peuple par la tyrannie, par la peur et surtout par le mensonge.
Et ils sont tous finis par tomber, finalement.
Ils sont tous tombés parce que, et ils ont opprimé à chaque fois les Hébreux parce qu'ils savaient très bien que dans les Hébreux, il y a le Hémet, il y a la vérité.
C'est intéressant parce que si tu regardes, par exemple, dans les années 91-92, au moment où le communisme s'écroule, c'est au même moment où des centaines de milliers de Juifs russes reviennent en Israël. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on comprend de là? Parce qu'il avait été décidé en haut que les Juifs devaient revenir. C'est à ce moment-là que finalement le communisme s'écroule. Ça veut dire, c'est toujours la même chose. Les dirigeants s'écroulent au moment où Israël est en train de remonter.
Exactement, et c'est tellement gros. C'est tellement énorme que les vrais complotistes, c'est-à-dire les vrais antisémites, les vrais antisionistes, ils voient toujours un complot juif. Parce que c'est tellement bien fait qu'ils se disent que c'est pas possible, les juifs complotent pour que ça se passe toujours comme ça. Eux, ils voient pas la main d'Hachem, ils sont complètement dans l'obscurité. Ils se disent que c'est pas possible, tout était prévu à l'avance. Ils vont même jusqu'à, je vous dis ce que j'ai entendu, ils vont même jusqu'à inventer que les juifs eux-mêmes se sont fait un propre génocide pour pouvoir demander aux nations la terre d'Israël. Imaginez le cerveau malade qu'il faut pour arriver jusqu'à cette déduction. Quand même. C'est-à-dire qu'on a du mal à manger, on a une interdiction de manger le sang d'un animal. La vie humaine est plus précieuse que n'importe quoi dans notre...
Et ils nous ont accusés de dégorger des enfants et de mettre le sang dans les matzot, alors qu'on est le seul peuple sur Terre qui n'a pas le droit de manger du sang.
Et carrément créer un génocide de nos propres frères de 9 millions pour pouvoir avoir la terre d'Israël. Dans ce cas-là, à choisir, vaut mieux que 9 millions, on prenne les armes et on la prenne par la force.
Notre grande chance, c'est que les antisémites sont les plus grands crétins de la Terre.
C'est ça.
Ils n'ont pas de cerveau, c'est des animaux.
Mais c'est une maladie, c'est une maladie, c'est un terme, c'est une maladie. Je peux dire que quand j'étais plus jeune, je m'amusais, enfin on s'amusait, on était un petit groupe, et on cherchait les skinheads, par exemple, et on les tapait.
C'est quoi les skinheads?
Les skinheads, c'est les néo-nazis. Ouais. Donc on était une bande, et on s'amusait à chercher tous les néo-nazis, et les frapper, parce qu'à certains moments, à certaines époques, ils se baladaient fièrement avec presque le brassard, la croix gammée, tout ça. Et on s'amusait à tous les chercher, à les frapper, à aller les chercher, à leur montrer qu'on était là. Et je me rends compte que pour certains, ils étaient encore sauvables. C'est-à-dire qu'on pouvait encore les sauver. Parce que en fait, ils ne connaissaient pas vraiment les Juifs. Ils avaient juste une image de la
légende. J'avais entendu, c'est tout.
Voilà, de la légende juive.
Mais pourquoi aujourd'hui le monde se réveille? Parce qu'ils écoutent directement les enseignements de Juifs. Et ils se rendent compte qu'on leur a menti pendant des millénaires.
C'est ça, là. Le fait de connaître un peu ce qui se passe chez les Juifs, et que les Juifs s'ouvrent aussi un peu, parce que les Juifs ont été beaucoup méfiants à travers le temps, se sont beaucoup enfermés aussi.
À cause de toutes les souffrances, bien évidemment.
Le fait qu'ils s'ouvrent et que les non-Juifs apprennent à connaître les Juifs, et même des gens qui étaient antisémites à la base, ils se disent « Ah ouais, en fait, peut-être que je me suis trompé, peut-être qu'en fait… » Et c'est la peur, parce que le racisme, l'antisémitisme vient d'une peur. Je parle pour les faux antisémites. Maintenant, les vrais antisémites, c'est-à-dire ceux qui sont liés à Amalek, eux, on ne peut rien faire pour eux. C'est pour ça que Hachem dit qu'il faudra les éterminer dans le temps. On ne peut rien faire pour eux.
Disons qu'on peut faire la différence, comme je dis souvent, entre un antisémite Ben Adam, qui lui fera teshuva, et un antisémite démon, qui n'est pas un descendant d'Adam. Cela, il faut les détruire. Cela, il n'y a pas de solution pour eux.
Exactement.
Bon, mais finalement, Eliaou, on est quand même arrivé à sortir quelque chose de ce texte incompréhensible. Oh, Hachem.
La prophétie de Rabbeinu, de Rabbi Nachman, qui disait qu'à la fin des temps, les théâtres, tout ça, deviendront des lieux d'enseignement.
C'est les endroits les pires, les hauts lieux de la débauche et du plaisir deviendront les hauts lieux de la vérité, quoi.
Et sa prophétie commence à se réaliser. Parce que je peux vous dire qu'avant de faire Teshuva, quand j'allais sur Internet, je n'allais pas forcément regarder des cours de Torah. D'accord ? Je pouvais écouter de la musique, peu importe, toutes sortes de choses. Mais depuis que j'ai fait Teshuva, même quand je m'entraîne, sur mon téléphone, il y a des cours de Torah qui tombent dans mes oreilles. Donc, c'est-à-dire que c'est déjà en train de se faire. C'est-à-dire que l'outil qui était utilisé, parce que sur son téléphone, on peut aller très loin dans la débauche. D'accord ? Mais on peut aller très haut dans la Torah, parce qu'aujourd'hui, l'air de rien, on peut étudier dans des yeshivotes virtuels, mais qui nous apprennent énormément.
Bien sûr.
Et choses qu'on n'aurait jamais pu faire il y a 100 ans. C'est-à-dire aujourd'hui, on a tous les courants sur notre téléphone. On peut étudier Breslev, on peut étudier la Hassidut, on peut étudier Chabad, on peut tout étudier.
Bien sûr.
Donc ça commence déjà à venir. C'est-à-dire que les lieux qui étaient censés être utilisés...
C'est-à-dire que l'instrument du mal... et récupéré par le bien, quoi, d'une certaine manière. On le voit avec Internet, à 100% raison.
Exactement, exactement. C'est en train de se passer, c'est en train de se transformer.
Ah, c'est vraiment, ça, je n'y avais pas pensé, c'est vraiment on pourrait dire une démonstration de ce que dit Rabbi Nachman il y a 300 ans. Un jour, le mal deviendra le bien.
On est d'accord.
On le voit avec Internet.
Et le cinéma, c'est pareil. Vous voyez, les films sont de plus en plus faibles, pauvres.
Mais de temps en temps, il y a un film fabuleux.
Voilà, je parlais de Lucie. Bon, pour ceux qui ne l'ont pas vu, essayez de regarder ce film-là, Lucie, parce qu'il explique pas mal de choses. Mais pour aujourd'hui, les scénarios tournent en rond, c'est toujours la même chose. Hollywood, ils sont saturés, il n'y a plus d'imagination. Ils vont être obligés d'aller dans la Torah, dans les secrets de la Torah, pour amener du nouveau. Et les gens vont avoir de plus en plus soif de ça.
Écoute, Eliaou, je crois que vraiment on a réussi un exploit aujourd'hui, d'essayer de pénétrer un texte qui, je l'avoue, était extrêmement fermé, compliqué, mais comme d'habitude, comme nos maîtres nous l'enseignent, lorsque deux personnes essayent sincèrement d'étudier la Torah, la Shrina descend dans ce monde, la présence divine, elle les aide à rentrer dans les enseignements les plus fermés, les plus compliqués, et c'est ce qu'on est arrivé à faire aujourd'hui. Alors, un grand merci pour ton intervention et pour ce que tu as expliqué, et on se retrouve la semaine prochaine, Bezrat Hashem.
Merci Arav, vraiment merci beaucoup, vous m'avez transmis beaucoup de choses, j'apprends encore énormément de choses, et c'est vrai que quand deux personnes étudient la Torah ensemble, un maître et son élève, parce que moi je me considère comme un élève, et je pense que je serai un éternel élève, je ne me considérerai jamais comme un maître. Mais voilà, vous m'avez enseigné énormément de choses, vous continuez à me transmettre énormément de choses. Et merci aussi à Rabbi Nachman, qui est toujours présent, pas besoin d'aller sur son tombeau, on peut avoir directement Rabbi Nachman à la maison.
C'est sûr que mieux vaut l'avoir dans un livre qu'en Ukraine, ça c'est sûr.
Voilà, avec
nous. Parce qu'au moins dans le Likoutei Moharam, il est présent avec nous, mais en Ukraine, il est complètement absent là-bas, malgré toutes les folies qu'ils nous font croire.
Exactement, et autant que la bouche de Bilam peut essayer de maudire, autant la bouche du peuple hébreu et des nations peut bénir. Donc ce qui sortira de notre bouche va créer notre réalité. Essayons d'être plus positifs pour que notre réalité soit positive.
Merci beaucoup, je suis obligé de m'absenter maintenant et on se retrouve la semaine prochaine.
Merci.
Merci beaucoup, beaucoup, Elio. Au revoir.